La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cozandet, je suis pasteur de l'église adventiste à Toulouse. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'impression de vivre toujours la même journée, d'être pris dans une routine qui se reproduit jour après jour? Peut-être aspirez-vous à quelque chose de nouveau ou de mieux dans votre vie? Je me souviens de l'histoire du film « Un jour sans fin » dans lequel un homme qui s'était retrouvé enfermé dans une même journée qui se reproduisait sans cesse. Dans ce conte philosophique moderne, un présentateur de télévision frustré est envoyé faire un reportage dans une petite ville de province. Or, lorsqu'il se réveille le lendemain de sa première journée, il se rend compte qu'il revit exactement la même journée. Alors ce n'est pas juste qu'elle y ressemble, c'est la même journée qu'hier, sauf qu'il est le seul à s'en rendre compte. Il rencontre les mêmes personnes aux mêmes endroits qui lui disent les mêmes choses. Et le lendemain, la même situation se reproduit. Dans l'histoire, il va tout tenter pour en sortir, mais peine perdue, il se réveille toujours dans son lit pour affronter exactement la même journée. Et je me rappelle particulièrement d'une scène où le personnage principal tente d'expliquer à d'autres personnes ce qui lui arrive. Il est dans un bar et lorsqu'un de ses voisins de table l'entend, il lui répond « j'ai l'impression que tu es en train de décrire ma vie ». J'ai beaucoup aimé ce conte philosophique moderne qui pose la question de notre existence. Car pas besoin d'être ce personnage pour avoir le sentiment d'être coincé dans une existence monotone et sans but. Métro, boulot, dodo, et la mort au bout. Ce sentiment ne date pas d'hier. Nous trouvons par exemple cette parole d'un sage dans la Bible, au livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, les versets 9 et 10. Je cite « Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Tantôt vers le sud, tantôt vers le nord, le vent souffle, le vent tourne, retourne et reprend ses tours. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent au même endroit. Tout est lassant. On ne le dira jamais assez. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé, arrivera encore. Ce qui a été fait, se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sous le soleil. S'il y a quelque chose dont on dit « voilà du neuf », en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Voilà donc comment un vieux sage d'Israël décrivait la vie. C'est assez déprimant. Rien de nouveau sous le soleil. Ce ne sont que les mêmes choses qui se reproduisent. Ce qui nous paraît exceptionnel ne l'est finalement pas tellement. À l'heure où je partage ces pensées, nous sommes encore dans les restrictions causées par l'épidémie de Covid-19. Nous avions peut-être le sentiment de vivre des circonstances uniques. Mais que dire de ce qu'ont vécu nos ancêtres aux heures des épidémies de peste ou de grippe espagnole? Rien de nouveau sous le soleil. Alors, si nous sommes ainsi pris dans une histoire qui se répète sans fin, est-il possible d'en sortir? Eh bien, bonne nouvelle, la Bible affirme que ce n'est pas une maladie incurable. En effet, à de nombreuses reprises, les auteurs bibliques affirment qu'il peut y avoir du changement pour le mieux. Dieu nous appelle à vivre des choses nouvelles. Alors voici par exemple ce que dit le prophète Ésaïe, dans le chapitre 42, les versets 8 et 9. « Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. » Le prophète semble dire que Dieu va amener du changement et pour cela il faut chanter un chant nouveau. Dans l'Ancien Testament, pas moins de 7 versets invitent à chanter un cantique nouveau. Par exemple, on peut citer le psaume 42, les versets 2 à 6, où David dit « J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puits sans fond. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a rendu mes pas plus sûrs. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. Seigneur mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes et de si beaux projets. » Alors, pourquoi dire chanter un chant nouveau? Dans ce beau psaume, David semble dire qu'il a vécu une expérience nouvelle avec le Seigneur. Il était désespéré, prisonnier de sa situation qu'il compare à un puits sans fond. Mais il a crié à Dieu et celui-ci est intervenu. Dieu l'a sauvé, il l'a tiré de son puits pour le mettre en hauteur sur un rocher. Et donc, ces vieilles rengaines ne suffisent plus. Il a vécu une expérience nouvelle avec le Seigneur et donc il compose un chant nouveau qui correspond à cette expérience. Et David termine en disant que Dieu nous réserve des choses étonnantes et qu'il a des beaux projets pour nous. Nous ne sommes pas obligés de rester coincés dans la routine. Nous ne sommes pas destinés à naître par hasard et survivre tant bien que mal pendant les quelques années de notre bref passage sur terre avant que la mort vienne nous prendre de toute façon. Dieu nous destine à la vie et pas juste à la survie. Encore faut-il être conscient de notre besoin de renouveau et d'être prêt au changement. Parfois, on a tellement peur de perdre le peu que nous croyons avoir que le changement peut être redouté. Ainsi, nous sommes face à deux dangers. Le premier, c'est de rester dans la routine, de trop nous habituer, de ne plus être capable de nous révolter contre le mal, l'injustice et la souffrance de ce monde. Ça, c'est être fataliste. Il n'a plus rien à faire qu'à attendre la mort le moins inconfortablement possible. Mais le deuxième danger, c'est d'attendre passivement que les choses changent d'elles-mêmes. On prête à Albert Einstein cette définition de la folie. Il s'agit de faire encore et encore la même chose en espérant un résultat différent. Si l'on ne fait rien, rien ne changera. Donc pour enclencher le changement, il faut bien un premier changement quelque part. Alors, comment sortir du piège de la routine et entrer dans les choses nouvelles que Dieu a en réserve pour nous? Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 5 invitations pour amorcer le changement. Alors, invitation numéro 1, sortez de votre zone confortable. Nous avons tous la vie à laquelle nous sommes habitués. C'est ce qu'on nous a appris, c'est comme ça que les choses sont. C'est ce avec quoi nous sommes tranquilles, on connaît, on maîtrise. Et c'est bien plus facile de rester là que d'explorer des chemins qui ont été moins parcourus. La Bible raconte beaucoup d'histoires dans lesquelles Dieu a demandé à des personnes de sortir de leur zone confortable. Le plus emblématique, c'est Abraham. C'était un homme d'une famille très riche qui habitait à Ur, en Mésopotamie. C'était là qu'il avait grandi, ainsi que son père et l'on ne sait combien de générations avant lui. Il était un digne fils du pays. Et le changement l'a appelé alors qu'il avait 75 ans. Vous imaginez changer de vie à cet âge? Et pourtant, comme nous le raconte le récit de la Genèse, chapitre 12, c'est à ce moment qu'il a entendu la voix d'un Dieu inconnu l'appeler à tout quitter, sa patrie, sa culture, sa famille, pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et la formulation de l'appel est intéressante. Littéralement, le verset 1 dit « Va vers toi de ton pays, de ta patrie, etc. Va vers toi. » Comme pour dire que pour devenir lui-même, Abraham devait se détacher de ce qu'il connaissait déjà pour aller à l'aventure d'une nouvelle destinée. Abraham aurait pu refuser, mais il a répondu à l'appel et il est sorti de sa zone confortable. Il est ainsi devenu le père des croyants dans lesquels se reconnaissent pas moins que les juifs, les chrétiens et les musulmans. De manière répétée, la Bible nous rapporte un Dieu qui invite les humains à sortir de leur zone confortable. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le nouveau chemin ne sera pas si inconnu que cela. On pense à Moïse ou David qui ont quitté un métier de berger de moutons pour devenir les bergers du peuple d'Israël. On pense aux disciples de Jésus qu'il a tirés de leur barque et de leur filet pour en faire des pêcheurs d'hommes. D'ailleurs, on peut mentionner cette histoire où Jésus a invité Pierre à jeter son filet de l'autre côté après une nuit de pêche infructueuse. Ça, c'était sortir de tout ce que le bon sens lui avait appris en tant que pêcheur professionnel. Et pourtant, Pierre a répondu à l'appel de Jésus et une pêche miraculeuse a eu lieu. Alors, comment identifier ce qui est hors de notre zone de confort? Eh bien, c'est très simple, c'est tout ce qui nous fait peur. Qu'est-ce que vous n'avez jamais essayé? Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé? Qu'est-ce qui vous a tellement appelé, mais que vous avez eu peur de tenter? C'est un bon indice pour identifier peut-être par où commencer. Invitation numéro 2. Élargissez votre identité. Je tire cette invitation de l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Recevoir un nom nouveau. Dans la Bible, certains personnages ont changé de nom. C'est Abraham, qui est devenu Abraham. C'est Jacob qui est devenu Israël. À chaque fois, le changement de nom reflétait un changement de direction de vie. Un nouveau nom pour une nouvelle identité. Comment est-ce que vous vous définissez vous-même ? Sur quelle base dites-vous « ça c'est moi » et « ça ce n'est pas moi » ? On peut se surprendre par certaines de nos réactions et on dit alors « ça ne me ressemble pas ». En fait, on passe tellement de temps à nous chercher lorsque nous sommes jeunes que lorsqu'enfin on a trouvé des traits qui semblent constants, on s'y accroche comme à une bouée de sauvetage. On se colle des étiquettes, on se met dans des boîtes et l'on est content avec ça. Parce que les étiquettes et les boîtes, eh ben ça rassure. Au moins, on sait où on est, ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Mais le problème, c'est que ça enferme et ça limite aussi. Par exemple, on peut entrer dans une forme de pensée binaire. On va dire qu'on est soit un manuel, soit un intellectuel, mathématicien ou artiste, voyageur ou casanier, etc. On les oppose et on ne pourrait être que l'un des deux. Mais pourquoi ne serait-on que casanier ou que voyageur, que mathématicien ou qu'artiste ? Ou encore, on va dire que dans la famille, on a toujours été des colériques, ou bien on a toujours été des mélancoliques. Alors si on se met à évoluer dans une autre direction, on a le sentiment de trahir sa famille. Mais tout cela coupe les possibilités d'évolution, de changement et d'élargissement de notre personnalité. En fait, notre identité est bien plus riche et plus large que ce que nous connaissons d'elle. Par exemple, vous ne saviez pas que vous étiez un parent jusqu'à ce que vous ayez votre premier enfant ? Ou vous ne connaissiez pas votre nouveau parfum de glace préféré jusqu'à ce que vous la goûtiez. Concernant les possibilités insoupçonnées de notre identité, nous trouvons une prière intéressante dans le livre des Chroniques. Comme son nom l'indique, ce livre retrace la mémoire de l'histoire du peuple d'Israël et il commence par 9 chapitres entiers de généalogie en partant des fils de Jacob qui ont donné naissance aux tribus d'Israël. Un tel fut le père d'un tel, qui fut le père d'un tel, etc. Il y en a comme ça des centaines de noms. Au beau milieu de cette longue liste, soudain, le chroniqueur s'arrête pour donner quelques détails sur un certain Jabez. Nous trouvons cela dans 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et 10. Je lis. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le faisant naître. Jabez prononça cette prière. « Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, élargis mes limites. » Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez ne voulait pas rester un nom parmi tant d'autres, défini uniquement par sa famille et sa descendance. Il a demandé une identité élargie, et c'était une démarche entre Dieu et lui. Cela a marqué tellement l'histoire, au point que le chroniqueur a senti la nécessité de le mentionner au milieu de sa généalogie. Donc, ne vous limitez pas à ce que vous connaissez de vous. Élargissez la manière dont vous vous regardez. Laissez Dieu élargir votre identité en vous amenant vers des choses nouvelles. Cela nous amène à notre troisième invitation. Donc, invitation numéro 3, accueillez les changements. On a un rapport ambigu au changement. D'un côté, nous pouvons désirer certains changements lorsque notre situation actuelle nous fait souffrir. Mais paradoxalement, les changements nous font aussi peur. Changer, c'est sortir de ce que l'on connaît. C'est sortir de la zone confortable, on en a déjà parlé. Quand un changement survient, on se focalise sur ce que l'on va y perdre en oubliant ce que l'on pourrait y gagner. Voilà ce qu'en dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, le verset 17. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Jésus a utilisé une image de son temps. On mettait le vin nouveau dans des outres faites de cuir. Avec la fermentation, le vin prenait du volume et la peau des outres neuves avait la souplesse nécessaire pour s'adapter. Mais avec le temps, le cuir devenait dur et cassant. Personne n'aurait risqué d'y mettre du vin nouveau au risque de tout perdre. Ainsi, Jésus nous invite à accueillir les changements auxquels Dieu nous invite plutôt que de lutter contre. En fait, il y a toute une partie de nos vies sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. La nuit succède au jour. L'été fait place à l'automne, puis à l'hiver. Et nos corps vieillissent inéluctablement. Mais les changements ne sont pas nécessairement négatifs. Alors, soit nous nous révoltons contre les vagues de la vie, soit nous les utilisons pour surfer dessus. Et si le changement que nous subissons pouvait être l'occasion d'un changement choisi? Invitation numéro 4. Voyez la vie comme une aventure toujours nouvelle avec Dieu. Pour sortir de la routine, nous avons besoin de voir la vie différemment. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 10. Comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. On a déjà parlé de notre identité que Dieu élargit. Mais ici, Paul va encore plus loin. Il dit que notre identité se renouvelle sans cesse et qu'elle ressemble de plus en plus à celle du Créateur. Notre vie n'est pas sans but. Tout d'abord, nous ne sommes pas là par hasard. Nous existons parce que nous avons été désirés. Même celui qui pense être né par erreur n'est pas là sans raison. Dieu nous a tous désirés et il veut tous nous adopter. Mais en plus, Dieu nous donne une raison d'être et une mission. Ça s'appelle une vocation. Voici ce que nous lisons dans le récit de la création tel que nous le rapporte Genèse chapitre 2, les versets 3 et 4. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucun arbre n'avait encore germé car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Ce verset nous dit donc qu'avant la création de l'homme, il n'y avait pas de végétation sur la terre car il manquait encore deux interventions. Il manquait une intervention de Dieu et une intervention de l'homme. Il manquait la pluie, donc ça c'était la partie de Dieu, et il manquait la culture, ça c'était la partie de l'homme. Donc ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est que Dieu aurait pu terminer tout seul. Lui qui a créé l'univers rien qu'avec sa parole, il n'aurait eu aucun problème pour couvrir instantanément la terre de plantes. Mais ici, Dieu semble faire exprès de laisser la création inachevée pour permettre à l'homme de la terminer avec lui. C'est formidable. Voilà la vocation humaine. Collaborer avec Dieu pour continuer la création. Ça laisse toute la place à l'inventivité, l'imagination, l'entreprise, la construction, la collaboration. Et ça, ça fait une vie passionnante. À ce propos, on raconte l'histoire de trois tailleurs de pierre à qui un visiteur demanda ce qu'ils faisaient. Le premier homme répondit en poussant un gros soupir. Il dit « Oh, moi je taille une pierre. Vous ne voyez pas ? C'est ça ma vie. Tailler des pierres. » Le deuxième répondit « Moi, je gagne ma vie. En taillant des pierres, ça me permet de recevoir un salaire et de faire vivre ma famille. » Mais quand on posa la question au troisième homme, ses yeux s'illuminèrent et il répondit « Moi, je suis en train de construire une cathédrale. » Comment regardez-vous votre vie ? Est-ce un métro-boulot-dodo obligé et sans but ? Ou alors êtes-vous en train de vivre l'extraordinaire aventure de la vie avec Dieu ? La vie n'est pas un fardeau à subir ou un examen à réussir, c'est un cadeau à expérimenter. Alors cette semaine, regardez chaque journée comme un bout de création que vous êtes en train de faire avec Dieu. Et comme ça, vous pourrez faire comme lui et vous retourner sur votre semaine le septième jour en disant « ça, c'était très bon ». Cela nous amène à notre cinquième et dernière invitation, commencez tout de suite par un changement. Est-ce que vous connaissez le mot « procrastination » ? Ça décrit cette tendance que nous avons de remettre au lendemain les choses que nous savons que nous devrions faire aujourd'hui. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, je suis un professionnel de la procrastination. C'est tellement plus facile de s'installer devant la télé que de se mettre à sa déclaration d'impôt. Combien d'occasions ratées ? Combien de nuits blanches à travailler parce qu'on a attendu le dernier moment ? Alors, ça peut être anecdotique, mais ça peut aussi avoir des conséquences parfois dramatiques. Nous connaissons sûrement tous le stress et la culpabilité causés par la procrastination. Et nous connaissons toutes les choses importantes que nous laissons traîner. En fait, si l'on réfléchit bien, plus c'est important et plus on procrastine. C'est un indice qui nous montre d'où vient cette tendance. En fait, nous avons peur d'échouer ou de ne pas faire assez bien. Alors on attend le moment parfait, la certitude de réussir et de tout contrôler. Et ce moment n'arrive jamais. Alors pour briser ce cycle infernal, commençons tout de suite, mais avec un changement, un seul, petit et accessible, un premier pas de la foi. La Bible raconte que lorsque le peuple d'Israël est entré en Canaan, il devait traverser un fleuve qui était en crue, impossible sans pont. Alors Dieu a dit aux prêtres du peuple d'aller devant et il leur a donné une seule instruction. Ils devaient commencer à marcher à travers la rivière, tout simplement. Le récit que nous raconte le livre de Josué, chapitre 3, nous dit que dès qu'ils eurent posé le pied dans l'eau, Dieu fit barrage en amont et le niveau du fleuve baissa jusqu'au sol et le peuple a pu passer. Tout a commencé par un seul pas, un pas de la foi. Alors, commencez par un changement pour le mieux, juste un, aussi minime soit-il. C'est comme lorsqu'on tire à l'arc. Si la cible est toute proche, pointer un peu plus à droite ou à gauche ne fait pas beaucoup de différence. Mais si la cible est loin, il suffit d'un écart d'un millimètre pour que cela devienne 1, 2, 3 mètres de différence à l'arrivée. Ne méprisez pas les petits choix faits avec foi. Tout changement que vous amorcerez aujourd'hui pourra avoir de grandes et belles conséquences sur le long terme. Alors, si vous avez le sentiment que votre vie n'a pas de sens et qu'elle est enfermée dans la routine, voici donc les 5 invitations que je vous propose aujourd'hui. 1. Sortez de votre zone confortable. 2. Élargissez votre identité. 3. Accueillez les changements. 4. Voyez la vie comme une aventure toujours nouvelle avec Dieu. Et 5. Commencez tout de suite par un changement. Que Dieu vous bénisse et vous donne de vivre des choses nouvelles cette semaine avec lui. Amen.
La montre sonne, il est 6 heures et mes yeux s'ouvrent au son du réveilleur. Au-dessus, le plafond tout blanc regarde ma vie, mon néant. Je n'ai pas la moindre chance, la même journée. Chaque matin le même refrain, chaque jour les mêmes papiers peints, chaque jour les mêmes gestes, les mêmes choix, les mêmes restes de vie qui s'en vont dans le temps. Chaque fois les mêmes voix, chaque jour le même jour, chaque soir le même demain, chaque matin la même journée qui s'éteint. J'éteins la lumière, il est 23 heures, mes yeux se ferment au son du répondeur. Au-dessus mon plafond s'éclaire des lampadaires de ma rue. Je soupire et j'espère que je m'endors ce soir pour la dernière fois, que peut-être demain je me réveillerai enfin. Chaque matin le même refrain, chaque jour les mêmes papiers peints, chaque jour les mêmes gestes, les mêmes choix, les mêmes restes de vie qui s'en vont dans le temps. Chaque fois chaque jour le même jour, chaque soir le même demain, chaque matin la même journée qui s'éteint. La montre sonne, il est 6 heures et mes yeux s'ouvrent au son du réveilleur. Et dans le silence assourdissant, une voix me parle comme un chant. Que veux-tu faire de ce jour? Le vivre sans moi, encore et encore, ou le vivre avec moi, juste essayer pour voir. Si chaque matin était différent, si chaque jour était important, si chaque jour était une pierre de plus, à la cathédrale que tu ne crois pas encore. Chaque jour je te désire prophète, et chaque jour peut-être une fête, chaque jour peut-être un chant d'amour qui se répand sur toi et sur eux tout autour. La montre sonne, il est 6 heures et mes yeux s'ouvrent au son du réveil. Au-dessus le plafond tout blanc est comme une belle page blanche. Tu la remplaces chaque nuit pour y écrire une page différente que je pourrais lire avant de m'endormir. Et chaque matin est différent, et chaque jour chaque jour est une pierre de plus à la cathédrale que je ne vois pas encore. Et chaque jour il me désire prophète, chaque jour devient une fête, et chaque jour devient un chant d'amour qui se répand sur moi.